tous les podcasts Détroit 8, radiogrenouille.com.
Vous écoutez Radio Grenouille 88.8, il est 10h. Et nous sommes installés sur une place publique à la Belle de Mai, en extérieur, avec la caravane média de Yes We Camp. Et nous allons parler pendant une heure d'Hyperville. Alors, Hyperville, eh bien, c'est une tentative de quelques-uns pour documenter les manières alternatives de faire la ville et de construire les espaces publics. Hyperville, c'est un rassemblement de collectifs qui a lieu à Marseille depuis vendredi. Et puis, c'est le dernier jour. Depuis donc quelques jours, ces collectifs se rencontrent, découvrent la ville. Et c'est les collectifs de Marseille, mais aussi de Madrid. Alors, il s'agit de collectifs d'architectes, mais par contre, des collectifs ouverts à d'autres disciplines et d'autres savoir-faire qui, d'une certaine manière, dans leur protocole d'intervention, d'aménagement des espaces, de construction, ils ont le souci premier de faire avec les habitants, de partir des habitants, d'une certaine manière de construire avec les habitants. C'est de cela qu'on va parler, de cette manière de faire qui est alternative aux manières traditionnelles de faire la ville aujourd'hui, qui est plutôt une manière, disons, de faire du haut vers le bas. Là, il s'agit pour ces collectifs de partir de la population, de partir des habitants, de partir des situations déjà existantes, des espaces déjà existants. Avec nous, trois collectifs. Le collectif ETC, qui est représenté ici par Victor. Alors, le collectif ETC, c'est un collectif à Marseille. Et on va parler avec ce collectif. On partira d'une situation précise, la situation de la plaine, les fameuses tables de la plaine. Bonjour, Victor.
Bonjour.
Et puis, deux collectifs venant de Madrid, le collectif Basurama. Le collectif Basurama qui est né en 2001. Avec nous, c'est Juan qui représente ce collectif. Bonjour, Juan.
Bonjour.
Et on partira pour discuter ensemble d'une situation précise, la situation Autobarrios de San Cristobal. Autobarrios, ça veut dire autoquartier.
Oui.
C'est donc une situation à Madrid.
Oui, c'est au sud de Madrid, c'est le quartier plus fragile de Madrid, de la ville.
Et puis avec nous également Diego du collectif Todo por la Praxis. Avec lui, on partira de deux situations pour discuter. Cañada Real et puis El Barrio Es Nuestro. Bonjour Diego.
Bonjour.
Alors, peut-être aussi préciser que Diego parle espagnol et il est traduit par Alfonso et Domenico. Merci à vous pour votre présence et pour cette traduction, ce soin apporté ici à la discussion. J'aimerais peut-être qu'on commence par préciser les noms ETC, Basurama, Todo por la Praxis. Essayez de comprendre qu'est-ce que veut dire ces mots-là, parce que ça dit des choses. On pourrait commencer par exemple ETC. ETC, ça veut dire c'est aussi etc. Pourquoi le choix? Qu'est-ce que ce mot-là, qu'est-ce que ce nom-là engage en fait déjà comme type de philosophie? Victor.
Oui, oui. Oui, ETC, c'est pas un sigle, hein, c'est etc. Ça parle d'un processus en cours, de choses à l'œuvre, de choses non finies, qui se continuent, qui ne nous appartiennent pas, dans lesquelles on s'engouffre, on s'en va, des choses comme ça.
Diego, Todo por la Praxis, qu'est-ce que ça engage immédiatement dans votre manière de faire, ce titre-là, ce nom, Todo por la Praxis?
Et Todo por la Praxis compromet à l'action directe.
Cet nom à l'action directe, Todo por la Praxis.
C'est un collectif de coproduction, de co-création.
C'est un collectif en fait de coproduction, d'action.
qui travaille
fondamentalement avec des actions collaboratives avec les communautés.
Juan, basurama.
Basurama. En fait, c'est des mots, c'est basura qui veut dire poubelle, ordure, et le panorama, c'est-à-dire avoir une vision panoramique de ce qui se passe avec les déchets dans un système de consommation. Mais aussi, ama, en espagnol, ça veut dire amour, c'est-à-dire d'aimer les trucs qui normalement on est pas utile, on considère pas utile.
On va donner quelques éléments de contexte. Hier, il y a eu les élections en Espagne. Et puis, le résultat de ces élections, c'est que finalement, la situation n'a pas évolué depuis les dernières élections. Le système politique semble bloqué. Avec l'arrivée donc, de ce nouveau parti qui s'appelle Podemos, qui est une émanation de ce mouvement qu'a connu l'Espagne, ce mouvement des places. L'Espagne est inscrite dans une séquence historique qui s'est ouverte en 2011, en Tunisie, d'une certaine manière, et qui a comme ça traversé l'Espagne comme elle a traversé les États-Unis avec Occupy Wall Street, cette séquence, comme elle a traversé la Grèce aussi. Mm-hmm. Et donc, on va essayer de comprendre comment ce mouvement des places a engagé une autre manière pour les habitants de se réapproprier la question des aménagements publics, la question de l'urbanisme, la question de l'aménagement de leur place. Alors si les élections législatives ont donné un système bloqué, il s'avère tout de même qu'à Madrid, il y a une nouvelle municipalité, une municipalité qui n'est pas Podemos, mais qui est tout de même issue de ce mouvement et qui aussi revendique une manière de faire qui est celle de la concertation, qui est celle de la participation, qui est celle de travailler à partir des désirs de la population. Et puis en France, un autre contexte, c'est un contexte où depuis maintenant quelques années, les politiques d'aménagement public, urbain, disent travailler avec des dispositifs de concertation, de participation. Alors on est là aussi dans des choses qui viennent d'en haut, mais avec des désirs ou en tout cas des volontés de consulter, de prendre l'avis. Et c'est aussi dans ces dispositifs que parfois s'insèrent des collectifs comme par exemple ETC. On va essayer de comprendre comment les uns et les autres vous faites un pas de côté vis-à-vis de ces politiques ou si vous finalement vous considérez que ces politiques-là en Espagne ou en France sont des politiques qui vous conviennent et qui correspondent à vos manières de faire. Du coup, peut-être la première question, ce serait pour nos amis venant de Madrid. Est-ce que cette nouvelle municipalité à Madrid, qui revendique une politique de la co-construction avec les habitants, est-ce que finalement, pour vous, c'est la politique idéale et est-ce que ça vous permet de mettre en œuvre justement vos protocoles de manière extrêmement soutenue, avec l'appui de la municipalité, et ça vous permet d'une certaine manière d'être dans une situation de confort dans vos projets.
Bon, Juan. Pour moi, c'est la conséquence d'une époque. C'est pas le début, c'est en fait après tout ça que nous avons vécu pendant les 90, 80 et au début des 2000. Et je pense que c'était normal de se retrouver dans l'espace public avec les gens. C'était une période où il y avait trop d'individualité. Donc on avait les besoins de se rejoindre pour commencer à gérer la ville et la vie d'une manière différente. Donc pour moi, ça que ça arrivait, les printemps arabes, les occupés, les mouvements, occupés et mouvements, les cancers à Madrid et à l'Espagne, et tout ça, ça c'est la conséquence d'une époque que nous sommes en train de vivre. Donc, et comme nous sommes, c'est à nous maintenant de gérer cette époque. Donc c'est une époque qui nous est arrivée pendant que nous étions en train de faire les pratiques. Donc et je pense que ça aurait arrivé même avec... même à Madrid, avec les nouveaux gouvernements, mais ça aurait arrivé même s'il n'y avait pas les nouveaux gouvernements. Par contre, et avec les nouveaux gouvernements, ils sont, je pense, que trop pressés par les mass médias et les grosses partis traditionnels. Donc, la liberté qu'ils ont pour réagir, pour changer, pour transformer, et en plus avec tous les poids qu'ils supportent dès les années dernières, c'est pas vraiment des libertés. Donc, si bien c'est, tu te sens plus, comment dire, tu sens qu'il y a plusieurs des acteurs dans la ville qui pensent d'une manière similaire. Les acteurs principaux, ils sont plus ou moins, on dirait, prisonniers de la politique d'avant. Donc pour changer, transformer la situation, je pense qu'ils ont besoin de temps. Et parfois, ça nous donne aussi de la responsabilité d'un des côtés. Normalement, on travaille contre des processus. Maintenant, on sent que nous devrons travailler pro. Mais en même temps, ça va doucement et nous avons de la, comment dire, de la pressée. De la pressée.
Diego, finalement, il y a quelques temps, avant qu'il y ait cette municipalité à Madrid, on pouvait se dire, bon, bah, ces manières de faire avec les habitants, de partir donc des logiques de co-construction, on pouvait se dire... Les aménageurs, les urbanistes, des municipalités, ça ne les intéresse pas de co-construire avec les habitants. Donc finalement, il y a un espace qui s'ouvre là pour un certain nombre de collectifs et on peut faire et on peut s'engager dans des processus directement avec les habitants et puis d'une certaine manière montrer une autre manière de faire. Aujourd'hui, avec la municipalité de Madrid, on a le sentiment que la ville dit « Eh bien, c'est notre politique, donc... nous allons maintenant intervenir. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'une dépossession de vos pratiques qui est à l'œuvre ? Diego.
Je vais essayer de répondre, c'est pas facile. Je crois qu'on est un peu
de
la même ligne que disait Juan tout à l'heure.
Es cierto que se están dando muchos cambios.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements.
Hay como muchas resistencias.
Mais il y a aussi beaucoup de résistance.
Hay inercias que hay que como que.
Il y a des inerties qu'il faut superer.
Pero bueno, sobre todo, Juan apuntaba como unas resistencias.
Juan parlait en fait d'une résistance dans le sens politique.
Realmente las resistencias fuertes son en lo financiero.
Mais finalement, la résistance la plus forte, c'est dans le sens financier.
Las que están intentando que este tipo de movimientos.
Que ceux-ci qui essayent de faire en sorte que ces mouvements ne peuvent pas florir.
Y bueno, yo creo que también hay como un tema, al margen ya de esto, hay un tema importante.
Je crois qu'il y a un thème très important.
Que realmente lo que está intentando pasar con
que
este cambio.
Ce qui se passe maintenant avec ces changements.
A la hora de instalar estas prácticas es que todavía no hay una cultura tanto
au moment de cette practice, y a pas encore une correspondance avec le niveau institutionnel.
Y es necesario un poco construirla, pero tenemos poco tiempo.
Donc c'est nécessaire de le construire, mais on n'a pas suffisamment de temps.
Je disais que en France, il y a tout ce discours de la participation, de la concertation. Alors Victor, vous avec le collectif ETC, il vous arrive parfois d'employer aussi cette terminologie de la participation ou celle de la co-construction. Celle aussi peut-être moins, mais sans doute parfois il peut vous arriver de l'employer aussi, celle de la concertation. C'est des dispositifs, alors si on prend la situation par exemple de la plaine, où il y a un projet d'aménagement de cette place, où il y a donc la Soleam qui est cette agence déléguée par la ville de Marseille pour faire cet aménagement, qui a fait une concertation. Comment vous regardez ou quel bilan vous tirez de cette concertation qui a eu lieu? Est-ce qu'il y a vraiment de la concertation? Est-ce que vous avez observé qu'il y a vraiment des dispositifs de participation mis en place? Est-ce qu'ils sont sérieux, ces dispositifs de participation, qui sont aujourd'hui, d'une certaine manière, de plus en plus généralisés dans les aménagements des espaces publics?
Bah, là, en l'occurrence, à la Plaine, on est dans un dispositif tellement caricatural que c'est facile de se faire un avis. Où, le dispositif de concertation a été... c'était une grosse blague où tout le monde ou alors beaucoup de gens ont vu, même ceux qui n'étaient pas sensibilisés à ces questions-là, qu'on ne parlait pas des questions dont avaient envie de parler les gens. Et c'était sur des échelles de temps, c'était des 3 réunions ouvertes à 100 personnes, inscription par téléphone, le numéro de téléphone était invisible. C'était dans des cadres très institutionnels. Du coup, dans ce cas-là, c'était en fait limite impossible de faire dans ces cadres-là. Mais nous, avec le collectif, on voit et on travaille dans des cadres peut-être plus souple, institutionnel, et souvent ailleurs que Marseille. Et du coup, je dirais que, en fait, je pense qu'on a une idée du commun, une envie de bosser avec des communautés sur un territoire habité qui nous est propre, qu'on partage avec d'autres, qui est d'une certaine manière étranger à tout le travail des institutions et les transformations de celles-ci dont tu parlais. Et donc, je pense que les cadres institutionnels dans lesquels on s'insère sont des opportunités pour nous de faire vivre une structure comme la nôtre, de prendre de l'argent à disposition et une légitimité, mais plus pour jouer avec ça, comme... En fait, de la même manière qu'on pourrait prendre un RSA ou un chômage ou prendre des subventions ou répondre à un marché public, c'est des opportunités qui nous permettent ensuite de mettre en œuvre des objectifs qui nous sont propres ou qu'on partage avec le territoire dans lequel on travaille. Pour essayer de mettre en place une idée du commun adapté, local, pour bouleverser un pouvoir, un état des choses, des conditions d'existence, du coup qui dépasse ce cadre institutionnel dans lequel on peut intervenir.
Alors à la Plaine, il y a différents collectifs, il y a l'Assemblée de la Plaine, et puis il y a un certain nombre d'habitants, et puis d'habitués de la Plaine qui s'organisent pour, d'une certaine manière, empêcher ce projet, le contester, et puis peut-être commencer à être dans des logiques d'appropriation de cette place. Et c'est là que vous intervenez, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a déjà une situation, il y a déjà une sorte de conflit, il y a une sorte de rapport de force. Et là, vous intervenez, mais vous intervenez pourquoi ? C'est-à-dire pour accompagner... ces groupes, ces collectifs dans leur procédé de réappropriation de la place. Quel est votre rôle là dans l'intervention dans cette situation ?
Bah, du coup, nous on est une petite composante de la lutte, l'occupation, l'expérimentation, peu importe comment on l'appelle, à l'œuvre là sur la Plaine depuis un an. Et du coup, j'en parle en mon nom, mais en fait, c'est un mouvement épars. Il y a plein d'acteurs qui ont une vision différente des choses. Et qui... Donc, en fait, c'est... Nous, on est un peu rentrés là-dedans. En fait, à la base, il y a un collectif informel du quartier qui s'appelle l'Assemblée de la Plaine, qui se réunit depuis quelques années sur des questions du quartier, sur des sujets tels que les caméras de surveillance, qui organise le carnaval de la Plaine indépendant et chaque année. Et donc ce collectif s'est saisi des questions de l'aménagement de la place, parce que en septembre on a eu une information selon laquelle il y avait un projet municipal de rénovation de la place. Et à partir de là, s'est mis en place le dispositif institutionnel avec la concertation, etc. Mais en parallèle, du coup, tout un mouvement d'information, d'apprentissage de ces questions d'aménagement, une occupation de la place, en fait, par différents groupes. Et donc nous, on est rentrés un peu là-dedans avec déjà une idée en œuvre de la part de personnes présentes sur la Plaine, de de prendre position dans cette occupation en construisant du mobilier, une grande table sur un emplacement central de la place qui est actuellement non aménagée, sur laquelle il y a beaucoup d'usages qui sont là.
Cette place, finalement, elle est déjà en cours de transformation, mais par les habitants eux-mêmes, effectivement, avec votre appui, puisque les fameuses tables de la plaine, elles ont été fabriquées dans votre atelier.
Dans nos ateliers. Mais c'est le travail de tout un groupe dont nous, on est une petite composante. Quoi.
Diego, par exemple, si on prend la situation Cañada Real, donc c'est une situation particulière, hein, il s'agit de 200 maisons réparties sur une voie de 15 km. En tout, c'est 10 000 habitants. Et si j'ai bien compris, c'est toute une voie qui, sur laquelle il y a une volonté politique de chasser ces habitants, de les expulser, de détruire les maisons. Vous, avec votre collectif, vous intervenez là aussi, quoi ? Là aussi, pour empêcher cette expulsion. Et dans votre intervention, est-ce que s'opère finalement aussi une transformation finalement de cette voie ? Est-ce que c'est une opération qui vise à revaloriser ce que le pouvoir considère comme étant finalement quoi, rien, sans intérêt ou inutile ? On en parlera aussi peut-être avec Bassourama. C'est-à-dire finalement quelque chose qui ne vaut rien et que votre intervention viendrait à retourner la situation et à montrer que non, dans cette voie de 15 km, il y a en fait un potentiel très fort et extraordinaire.
Cañada Real tiene 40 años de
Cañada
historia.
Real a 40 ans d'histoire.
Son 10 000 habitantes.
Il y a 10 000 habitants. 4 000 maisons.
Llevan haciendo ellos la población autoconstruido.
La población se ha autoconstruit le quartier.
Nosotros llegamos hace 8 años. Llegamos.
Le collectif Todo Praxis arrive
il y a 8 ans. Construido.
Avec un espace déjà construit.
Nuestra posición allí fue.
Notre position a été.
Desde la militancia en defensa de los desalojos.
Pour défendre justement l'expulsion.
Y las primeras intervenciones fueron intervenciones de urbanismo táctico.
Les premières actions ça a été de urbanisme tactique.
Intervenciones muy pequeñas en el
des actions très petites dans les territoires.
Trabajando con diferentes entidades, asociaciones.
Pour travailler avec différentes organisations, associations.
Pero después de esto,
mais après ça,
sí que hubo como un cambio.
Il y a eu un changement.
De lo pequeño pasamos a hacer un planning, un
de
urban plan.
De petite action, en fait, on a passé à faire un vrai plan et on a fait ça directement avec la population.
Eso sí que ha supuesto un cambio importante porque.
Cet changement d'échelle a été vraiment important.
Pasamos de hacer como pequeñas intervenciones.
On a passé de faire des petites actions dans le territoire.
A planificar.
À planifier.
De manera participada.
Avec la participation des citoyens à tous les territoires.
Qu'est-ce que c'est que ces petites actions concrètement ? C'est quoi, par exemple, un exemple de petites actions dont tu parles ?
Bueno, es una pequeña plaza.
Il s'agit de travailler dans des petites places, créer des nouveaux espaces sportifs, un échange d'alimentation.
Cosas muy pequeñitas,
des choses vraiment très petites, essayer de. C'était vraiment avec des petits budgets et des actions vraiment à échelle très petite.
Et qu'est-ce que ça a changé le fait de mettre en place et de créer ces petites places, de créer ces petites situations qu'est-ce que ça a changé pour les habitants ?
Pues ha cambiado bastante porque antes no tenían espacios públicos.
Avant, ils n'avaient pas vraiment des espaces publics.
Un territorio donde solo se habían construido viviendas.
Où il y avait seulement des maisons.
Y hemos intentado un poco articular como una
avec
red.
Avec ça, en fait, on a essayé de aussi bâtir un réseau.
Donde la gente puede hacer encuentros, donde la gente
et donc
puede
des espaces où les gens pouvaient se rencontrer et s'organiser pour faire ses revendications autour de l'expulsion.
Et c'est toute une population qui a des savoirs d'autoconstruction. Du coup, vous vous êtes appuyé aussi sur les savoir-faire de cette population.
Es que la autoconstrucción ha estado presente.
L'autoconstruction a été toujours présente pendant longtemps.
Lo que pasa es que la hemos ido perdiendo.
Et en fait, avec le temps, on a perdu ça, mais il y avait des gens.
Aquí en Cañada realmente.
Y sí, en Cañada
no,
Real.
No hemos tenido como un aprendizaje como muy directo porque una situación muy precaria.
No hemos un aprendizaje realmente directo, porque la situación se te realmente precaria.
Simplemente nos interesaba un poco.
Nos interesaba c'était plutôt de trabajar la organización y utilizar lo que había aprendido.
Alors, si on discute avec Basurama Juan, la situation autobarrios, donc autoquartier, à l'origine, cet autoquartier, il va se construire sous un pont d'autoroute. Donc, on transforme finalement un espace qui est un espace un peu mort, un espace en friche, un espace non utilisé, un espace tampon entre le centre et la périphérie, d'une certaine manière. Et vous allez intervenir dans cet espace pour en faire une des places publiques des voisins qui habitent à proximité de cet espace. Et ça devient donc un autoquartier. Ça veut dire quoi ça devient un quartier autogéré ?
Autogéré, autonome. En fait, les buts, c'était après les 90 et les 2000... Et la population, les citoyens, nous avons laissé toute la manière de gérer la ville à l'administration. Donc, ça a devenu que des personnes qui demandent, qui reçoivent des projets ou des interventions, etc. etc., etc. Donc, ce que nous voulons, c'est de montrer ou d'aider les gens à construire sa propre ville, comme ils veulent, avec des besoins et avec des désirs et tout ça. Et être sous les ponts, c'est le résultat après des interviews avec de différents acteurs dans les quartiers qui ont pointé cet endroit comme un des plus principaux, parce que c'est la rentrée principale, et aussi c'est un des plus, comment dire, abandonnés. Et donc, c'était là où on devrait faire des constructions, parce qu'avec la construction, tu pouvais avoir des résultats directs. C'est-à-dire, ça fait aussi, comme Diego disait, ça fait longtemps qu'il y a des voisins là qui sont en train de se battre pour améliorer la situation, spécialement dans les 80. Mais il y a toujours le problème que tous les changements qui sont sociaux ou qui sont des apprentissages, et après, tu ne trouves pas comme tu ne peux pas les voir, tu ne peux pas les toucher. Donc parfois, la population, ils ne se rendent pas compte des changements. Mais quand tu construis tous ensemble, là, tu trouves qu'il y a un objet, un symbole qui te montre ce qui est en train de changer. Donc pour nous, c'était très important de faire la transformation physique. Et en même temps, quand tu fais la transformation physique, il y a plein de moments où les gens se retrouvent. Les gens qui ne se connaissent pas peuvent avoir des moments pour construire ensemble. Ça, c'est un mouvement très fort.
Construire, c'est ça aussi. C'est, vous êtes d'accord, Victor et Diego, qu'en fait, construire, c'est avoir une prise finalement sur la situation et finalement opérer un vrai changement dans le rapport de force, que ça change finalement aussi le rapport de force, le fait de construire, par exemple, avec... parce que tous les trois collectifs, là, autour de la table, chacun, vous avez construit, hein. Par exemple, les tables, ça a changé le rapport de force. Ça a changé. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un changement réellement opéré?
Sûrement, j'espère. Mais parce qu'en fait, il y a eu une première tentative de poser des tables qui sont restées 3 mois sur place et qui ont été ensuite enlevées de manière hallucinante et violente par 70 policiers. Une réaction municipale, mais bon, ça c'est à Marseille, je pense. Et en gros, je pense que ça a fait que ça a rendu visible ce rapport de force et aussi, ça a rendu visible la réponse municipale dans toute son inutilité et son décalage par rapport à ce qui se passait. Du coup, je pense que de par cette répression, il y a quelque chose qui se passe aussi. Ça a grandi un peu, ça a éveillé des choses chez des gens. Et après, tout simplement, en fait, ça devient les tables de manière spontanée, un lieu où on se retrouve, où on se donne rendez-vous. C'est quelque chose de visible. Les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. Et du coup, c'est une entrée dans le mouvement possible. les gens s'interrogent dessus, s'y réunissent. Du coup, c'est un symbole ou c'est une entrée dans la matière. Quoi.
Les gens, les habitués de cette place, les habitants, du coup, se mettent à la réinventer, à se dire, tiens, elle pourrait être comme ça, elle pourrait être comme ci, tiens, on pourrait y faire ceci, on pourrait y faire ça. C'est cela qui s'engage finalement, c'est-à-dire un processus de réappropriation de la place et plus uniquement un processus habituel, ou enfin une démarche habituelle qui est celle finalement d'être dans un rapport passif avec l'espace public, mais là, d'être dans un rapport actif, c'est-à-dire l'aménager. Est-ce qu'on peut aussi considérer que d'une certaine manière, un chantier a déjà commencé sur la place de la plaine?
Oui, parce que déjà aussi, suite et autour de la construction des tables, il y a eu d'autres choses qui ont été faites, comme la mise en place de petits jardins, de la réhabilitation de la fontaine. Et ça, c'est des groupes qui s'emparent de ces sujets-là de manière un peu spontanée. Mais plus généralement, je dirais que... En fait, moi, je vois ça comme un déplacement, enfin, tout ce mouvement et l'occupation de la place, je vois ça comme un déplacement de la question du simple aménagement dans laquelle on veut enfermer le discours le lancement de cette concertation municipale où je pense que c'est une expérimentation qui commence et qui dépasse le cadre d'un aménagement classique. Et du coup, c'est pour ça, oui, peut-être qu'on peut parler de remise en question de ce champ sémantique du chantier, qui a un sens commun d'un budget très important sur un temps très défini avec des acteurs bien sectorisés. On ferme la place pendant 2 ans, on transforme à grands coups de millions d'euros avec des savoir-faire étrangers au quartier et où on interdit pendant ce chantier-là tout usage d'une place. Et du coup, là, en fait, ce qui est à l'œuvre, c'est peut-être un autre chantier, oui, effectivement, où c'est plus qu'une transformation esthétique et physique de la place, c'est aussi... c'est une espèce d'expérimentation totale où il y a de la construction, des échanges, on imagine des formes d'organisation autonomes, sans pouvoir représentatif. Et on va vers j'ai l'impression que c'est ça ce dont on parle, on va vers des possibilités... d'organisations qui sont soit inconnues ou soit à l'œuvre depuis longtemps, depuis le 19e siècle. Ouais.
Est-ce que finalement, à vous entendre tous les trois, on pourrait dire que finalement vous êtes un peu des architectes militants, est-ce que ou activistes d'une certaine manière. Est-ce que Diego, ce terme de architecte militant, activiste, c'est un terme que tu reprendrais pour le collectif Todo la Praxis.
Sería difícil, o sea...
C'est toujours difficile.
alguien siempre es difícil un poco distinguir entre
c'est difficile de distinguir entre
architecte,
militant, citoyen, je suis Diego. C'est difficile.
Es una cosa que realmente cuando participamos
c'est quelque chose que quand on participe d'un espace, tu participes depuis différentes parties.
Nosotros cuando trabajamos en un espacio,
quand on travaille dans un espace,
sí que es algo que tenemos un poco que quería aclarar.
Quelque chose que je voulais vraiment être très clair.
Intentamos
on essaye
d'éliminer
les frontières, les barrières, qui est le citoyen, qui est l'architecte, et on essaye de dire qu'on est tous dans le même lieu pour faire des choses ensemble.
C'est
pour ça que ça, on traduit dans un espace. Tout à l'heure, j'ai parlé de comment construire des nouveaux espaces,
une place
comme la place de la Plaine. Une place unique conventionnelle, c'est une place de gestion citoyenne qui répond à un modèle de gestion sociale avec des logiques vraiment différentes. C'est pour ça qu'on ne peut pas travailler avec le même code qu'on faisait tout à l'heure où il y avait des rôles très définis.
Juan, architecte militant, activiste.
Parce que pour nous, c'est exactement le même que a dit Diego. C'est très difficile de séparer ta vie personnelle de ton boulot. C'est pour ça que je pense qu'on est tous dans le même cadre, c'est-à-dire qu'on commence comme une activité plutôt personnelle avec des amis, des copains, et après ça se devient des boulots. Donc, et en même temps, on habite dans un moment où toutes les frontières sont mélangées, c'est-à-dire on est toujours avec plusieurs tares sur nous, donc on peut utiliser les tares des militants, et on peut utiliser les tares d'architectes, d'urbanistes, de citoyens, de n'importe quoi. Et surtout, c'est les autres qui te donnent les tares. Donc, je pense que c'est. Moi, je me sens plus à l'aise sans tares. Mais c'est avec les autres qui te donnent, comment dire, qui te retournent un visage. Donc, s'il y a quelqu'un qui demande, qui pense qu'on est militant, bon, parfait. S'il pense qu'on n'en est pas, parfait aussi.
Tous les trois collectifs, il me semble que vous considérez que cette manière que vous avez de faire, de cette manière que vous avez finalement de penser les aménagements urbains, de penser l'urbanisme, de penser l'architecture, au-delà de l'architecture, au-delà de l'urbanisme, et de le penser, disons, à partir, encore une fois, des désirs des habitants, tous les trois collectifs, vous considérez que c'est une véritable manière alternative de construire la ville aujourd'hui. Et donc, ces trois collectifs, vous vous posez aussi la question de la professionnalisation de cela, du financement de cela, de la viabilité économique de cela. Et depuis tout à l'heure, on parle de situations où finalement, il y a des dynamiques de conflit, d'opposition avec la puissance publique ou de non-reconnaissance. Est-ce que le fait de chercher un modèle économique, de se professionnaliser, est-ce que c'est viable et est-ce que vous n'allez pas perdre votre capacité à pouvoir justement intervenir dans ces espaces conflictuels où il y a effectivement des formes d'urgence, où il y a des agressivités urbanistiques sur lesquelles il y a nécessité d'intervenir. Voilà, est-ce que le modèle économique que vous cherchez n'est pas aussi ne vous conduirait pas finalement à une forme de dépolitisation ou de d'une certaine sagesse avec les risques d'être intégré, récupéré dans ces fameux dispositifs politiques de concertation, de participation et ainsi de suite. Qui veut répondre, Victor? Diego?
Je crois qu'il
y a des intérêts
derrière de notre pratique
de
revendiquer une dignification de la pratique.
Eso
no significa que estés como vendido.
J'ai perdu en fait. Ouais.
De revendiquer.
Revendiquer.
De revendication de la notre pratique.
Voilà. Il y a une revendication de notre propre pratique comme quelque chose de légitime.
Hay una cosa que a mí me interesa mucho hablar.
Chose que ça m'intéresse beaucoup.
Por ejemplo, normalmente cuando se recupera un espacio,
quand on récupère un espace,
una plaza, siempre
une
hablamos
place,
de presupuestos bajos.
On parle toujours de budget très petit.
Y no son presupuestos bajos.
Y no son pas de budget très petit.
Hacemos unos bancos de madera, hacemos
unas
pequeñas construcciones.
Bois, on fait des petites constructions.
Pero hay un montón de capital humano
mais
detrás
de todo
eso. Il
y a beaucoup de capital humain
que no se
derrière,
pone en valor nunca.
Qu'on, on ne met pas suffisamment en valeur.
Quizá si lo pondríamos en valor, podríamos
peut-être
un poco
equiparar. Peut-être qu'on devrait mettre
en valeur
ça et faire une équiparation avec les projets normal.
Nosotros siempre hablamos un poco de romper las lógicas.
On parle de casser les logiques.
Una lógica del mercado que hace construcciones
marché,
excesivamente caras.
Construction très chères.
Aquí quizá lo que se trata es de
ici,
poner en valor realmente
faire,
el trabajo
en valeur le travail,
de
des
mucha
gens,
gente, de muchos conocimientos que están
de
puestos
de
encima de la
qui
mesa.
Dedans, qui est sur le côté du travail,
y quizá es lo más importante. Y otra cosa, o sea,
une autre chose.
Siempre es difícil cuando estás
toujours est très difficile quand tu es en train de travailler
en estos contextos,
dans ce contexte,
tener un pied
d'avoir un pied dans l'institution,
pero siempre hay que tener otro pie fuera,
et en même temps un autre pied en dehors de l'institution.
El pensamiento crítico, o sea, creo que tiene la que estar siempre presente.
Il faut toujours l'avoir.
Cuando hay alguien que no lo, o sea, cuando te pierdes en ese camino, siempre tiene que haber un amigo que te diga.
Si tu te perds, il faut toujours avoir un ami qui te dit et te donne des bonnes critiques.
C'est ça l'importance du collectif finalement.
C'est exact.
C'est exact, ouais.
Juan,
oui, je veux dire, c'était tout à fait. C'est l'important du collectif, c'est que les premières critiques sont tes copains dans le collectif. Donc à la fin, si tu réussis à faire un projet que tout le monde est d'accord, c'est parce que toutes les sensibilités, toutes les critiques, toutes les idées, elles sont là. Et ça fait aussi pour effacer la complexité. Maintenant, la ville, c'est très complexe. Et on parlait des politiques, on parlait des sensibilités, on parlait des gens, l'infrastructure, la subjectivité de chacun. Il faut l'effacer avec de la complexité. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a 6 ans de collectif et qu'on cherche toujours de la collaboration. Donc c'est pas... même pas suffi avec 8 copains, 11 copains, 20 copains. Tu as besoin toujours des autres qui te donnent des différentes approches et aussi qui donnent des différentes solutions. Parce qu'à la fin, c'est être capable de se coordonner avec des solutions qui sont déjà là. Plusieurs fois, c'est pas même pas de poser tout une solution, mais de pouvoir montrer les solutions qui sont, comme disait Victor avant, il y a des gens qui étaient déjà en train de travailler avec la jardinerie, il y a des gens qui travaillent dans le cadre de l'administration. Donc finalement, c'est plutôt de voir les réseaux, de voir les potentiels et pouvoir les coordonner.
Changer les manières de faire, c'est aussi changer les manières de faire de l'institution, d'où l'importance de maintenir un dialogue avec justement les institutions pour qu'elles aussi, elles changent leur manière de faire et qu'elles prennent en compte ces manières de faire que vous proposez. Victor, ce dialogue avec les institutions, vous y tenez avec le collectif ETC ?
Oui, mais moi je vois ça plus comme une opportunité pour changer les choses sur le terrain, pas forcément changer l'institution.
Mais... Pas changer l'institution ?
En tout cas, moi j'ai du mal à voir à quelle échelle on peut la changer, enfin, donc, comment on peut la changer à l'échelle des cadres dans lesquels on intervient. Pour moi, c'est plus des opportunités d'aller dans ces territoires-là et de semer des graines, d'initier des trucs. Mais... j'ai l'impression que le changement de l'institution, c'est beaucoup plus global à faire et ça dépend pas que de nous, ou en tout cas, on le fera pas dans ce cadre-là.
Juan, tu voulais intervenir ?
Oui, je voudrais ajouter une chose, c'est pas changer l'institution maintenant, c'est de changer ce que tu fais, changer l'environnement et après, c'est l'institution qui te suivra. Donc je pense qu'on est à un moment où il ne faut pas gaspiller d'énergie en train de changer l'institution parce que l'institution doit changer parce qu'elle ne fonctionne pas.
Alors c'est l'institution qui va suivre. Est-ce que l'institution Madrid suit le projet Autobarrios par exemple ? Est-ce qu'elle le suit ?
Je pense que quand il change de la situation, et maintenant il y a un moment où la ville et l'administration n'ont pas plus de pouvoir, c'est-à-dire avec la crise, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de... comment dire, des flexibilités pour proposer, et il n'y a pas les moyens. Donc normalement, maintenant, si tu es capable de résoudre des problèmes que la ville ne peut pas, à la fin, on ne peut pas se battre avec ça. Donc tu as les pouvoirs pour contrôler d'une façon de faire. Et après là, je pense que c'est bien sûr l'administration qui doit voir comment est-ce qu'ils vont, comment ils vont parler avec toi. Avec les projets. Nous, on ne dit pas, est-ce que je peux faire ça ? Nous, on dit, on va faire ça. Ça serait dommage si vous ne feriez pas partie de ce projet, parce qu'il y a tout le monde. Il y a l'industrie, il y a les fondations, il y a les gens, les associations, les professionnels. Il nous manque vous. Quelle est votre position ?
Et alors, quelle est la position de Madrid dans le projet d'Autobarrios ?
Dans le projet d'Autobarrios, ça a commencé avec la droite au début. Et maintenant, c'est avec les nouveaux gouvernements. Et la droite, c'est que c'est, elle a laissé faire. Donc, à la fin, ils sont donné le temps, ils ont donné les permis, ils ont donné pas les moyens, mais la possibilité de faire.
Et la nouvelle municipalité ?
La nouvelle municipalité, il est en train de chercher comment on peut le faire de manière propre, avec les règles qu'il y a déjà dans l'administration. Autant qu'il essaye de changer les règles, parce qu'à ce moment-là, on travaille avec la légalité. Comme disait Domenico hier, c'est pas de travailler avec la illégalité, mais non plus avec la légalité, parce que la légalité, il te permet pas de faire des trucs sous les ponts par toi-même, avec des fournitures qui n'ont pas réglé, et tout ça. Mais par contre, tu peux essayer de trouver des espaces qui ne sont pas réglés, et là, il faut faire la force.
Mais est-ce que la ville de Madrid considère que cet espace-là est désormais un espace public à part entière qu'elle doit prendre en charge dans son économie, dans sa gestion, dans ses ressources humaines, dans ses services publics ? Est-ce qu'elle considère qu'une nouvelle place publique est née à Madrid ?
Là, c'est une question que ce n'est pas seulement de l'administration. C'est est-ce que nous voulons que l'administration prenne soin de cet endroit ? C'est-à-dire, est-ce que nous voulons rentrer dans les schémas de l'administration ? Parce que si tu rentres dans les schémas de l'administration, peut-être les bois qui étaient utilisés, ça ne sert pas pour l'administration. Donc, une fois que tu demandes qu'ils nettoient l'espace, qu'ils se prennent soit les nettoyages, par exemple, ou les soutiens, au moment qu'ils font ça, tu rentres dans la bureaucratie, donc tu rentres dans les permis, tu rentres dans l'homologation. Et là, on se trouve dans la situation qu'on avait avant. Donc parfois, tu dois, comment dire, t'es éloigné de la nettoyage, éloigné de la...
Donc l'autogestion.
C'est ça.
À terme, finalement, c'est l'objectif ou est-ce qu'il y a un dépassement de l'autogestion ?
En Espagne, il y a une expression qui c'est, comment dire, tensar la cuerda. C'est-à-dire mettre en crise la situation, la relation avec l'institution. C'est-à-dire, ça qu'on fait, c'est bon. On a les mass médias qui disent que c'est bon. On a des prises qui disent que c'est bon. Il y a des professionnels qui disent que c'est bon. Et toi, tu veux venir et prendre soin de l'espace. Mais par contre, moi, je t'ai dit que je ne veux pas ça. Parce que je ne veux pas rentrer dans ton moyen.
Dans ton jeu.
Dans ton jeu. Donc, ce que je veux, c'est que tu changes. La façon de faire pour entrer dans un jeu qu'on construit ensemble.
Donc
tu ne changes pas, moi je ne peux pas te donner le pouvoir de rentrer dans cette...
Donc, d'une certaine manière, oui, pour que la ville de Madrid rentre dans le processus, à condition qu'elle rentre autrement que la manière dont elle rentre habituellement.
C'est ça.
Diego ?
Bueno, yo quería hablar de varias cosas.
Je voulais parler de différentes choses.
Yo creo que la institución tiene que
comprender que existe diferentes formes de relacionarse, de se relacionar avec elle, depuis dehors et depuis l'intérieur.
Es cierto que hay espacios que por su propia naturaleza
son imposibles. C'est vrai qu'il y a des espaces que pour sa propre nature c'est difficile de s'institutionnaliser.
Pero la institución los tiene que permitir.
Mais la institución doit se le permettre.
Y otros que caminan hacia la institucionalización porque quieren.
Il y a des autres qui caminent, qui s'approchent à la institutionnalité.
De todas formas y cambiando de tema, creo que se puede transformar la institución.
Si on change de thème, en fait, je pense par contre que on peut changer les institutions.
En Madrid tenemos un ejemplo muy claro, la red de huertos urbanos de Madrid.
À Madrid, on a un exemple très très bon, c'est par rapport à un réseau de potagers urbains.
Durante mucho tiempo ha habido gente que ha construido huertos,
pendant
una red de huertos
y
por toda la ciudad.
Des gens qui ont construit ces potagers urbains tout au long de la ville.
Desde la autogestión, desde la ocupación,
avec des formes d'autogestion, d'occupation et d'autres démarches.
Y después de 20 años,
et après 20 ans,
muy lento el proceso.
Donc ça a été vraiment très long.
Han conseguido
et maintenant ils ont réussi à régulariser la situation.
Es cierto que pierdes cosas.
C'est vrai qu'ils ont perdu des choses pendant les chemins.
Pero también ganas otras muchas cosas, como estabilidad,
mais c'est vrai qu'il y a maintenant ils ont gagné des choses comme par exemple la stabilité.
Y creo que es importante esta cuestión porque,
c'est vraiment très important ça.
Porque realmente muchas de estas prácticas, el puente,
el campo de cebada, autobarrios, campo de cebada, esto es una plaza.
De Madrid, siempre han surgido
de Madrid
desde la excepcionalidad.
On a commencé depuis l'exceptionnalité.
Y hay gente, hay mucha gente que a lo mejor no está como acostumbrada a esa excepcionalidad.
Y hay beaucoup de gens qui sont pas vraiment habitués a ce type d'exceptionnalité.
Creo que la institución debe asegurar que en igualdad de condiciones.
Je crois que l'institution doit assurer que dans la même situation tout le monde peut accéder à ce type d'espace.
Por eso es importante protocolizar, o sea,
c'est pour ça que c'est important de protocoliser
le procès à estos espacios
et l'accès à ce type d'espace.
Et bueno, simplemente eso.
Peut-être qu'on pourrait aussi parler un petit peu de la dynamique des alliés dans la situation, et particulièrement par rapport au projet de Basurama Autobarrios. Si j'ai bien compris, c'est en 2012 hein, que le projet commence, et finalement, l'appel ou le point d'entrée, ça vient d'un centre social, il me semble. Hein. Donc peut-être est-ce que vous pouvez parler des alliés, comment à un moment donné vous trouvez des alliés, autant au collectif, enfin sur la plaine, on voit que les alliés c'est pas des institutions, c'est plutôt des collectifs, donc pareil sur l'intervention sur le Cañada Real. Par contre, par rapport à Autobarrios, là c'est une sorte d'institution de quartier, une sorte de maison de quartier, un centre social.
En fait, il y avait pas une demande sociale quand nous sommes arrivés là. En fait, il y avait une demande nulle part. Il n'y avait qu'une autre demande, c'est-à-dire notre demande.
C'est-à-dire votre regard.
Oui, notre regard. C'est-à-dire que nous, on avait l'idée que tous les processus qui étaient déjà en train d'être mis en œuvre dans le centre de Madrid, on aurait besoin, où ils ont vraiment besoin de ça, c'est à la périphérie. Mais ils n'arrivent jamais à la périphérie. Donc, est-ce que c'est possible de prendre la façon de faire de centre et l'amener à la périphérie? Est-ce que c'est possible de faire une périphérie autonome? Parce que c'est toujours abandonné, c'est les déchets de la ville, en fait. Donc, comment on peut le faire? Donc, les premières mois, c'était une fondation qui a acheté le projet, qui a acheté les regards, on dit. Il nous a dit de l'amener à Saint-Christobal, parce qu'il avait des intérêts là. Donc, avec cette regard, nous sommes arrivés au quartier. Et le premier truc, c'était de se rejoindre avec tous les gens qui étaient déjà en train de travailler là. Donc, on a dépensé un an en train de comprendre et serrer la liaison affective avec la population locale. Pas les populations, mais les gens qui étaient déjà en train de travailler avec la population. Des associations, les PETRE, l'association des voisins, tout le monde. Et après ça, qu'on a eu tous les différents regards, on a pu arriver à faire une plateforme avec des associations qui voulaient dérouiller les projets avec nous. Et si on veut être autonome, le premier truc, c'est qu'on ne peut pas avoir des financements ou des ressources de l'administration, parce qu'on veut précisément que l'administration nous suive. Donc, quel type de ressources on a tout autour? On a l'area industrielle, qui normalement, c'est un problème pour le quartier, parce qu'il y a des problèmes
de pollution.
De pollution et aussi de la... Comment se dit, la prostitution.
De prostitution.
Prostitution et tout ça. Donc, est-ce qu'on peut les mettre dans une manière différente, c'est-à-dire pas comme un problème, mais comme une possible solution? Par exemple, il peut nous donner des matériaux qui, pour eux, c'est des déchets, mais pour nous, ça nous permet de travailler sous les ponts. Est-ce qu'il y a des peintures? Est-ce qu'il y a, on peut faire ce type d'alliance? Et après, quand il y a le secteur industriel, qui aussi a des problèmes avec l'administration, et il y a aussi les gens du quartier, comme ça, tu peux te rejoindre avec l'administration et on dit ce que tu disais avant. Et OK, ça va se passer. Où est-ce que tu veux être? Et surtout, si tu peux avoir la collaboration des meilleurs professionnels possibles. Donc, les problèmes à la fin, ça sera que tu ne feras pas un truc que ça ne soit pas professionnel. C'est-à-dire que la décision de l'administration ne sera pas technique, mais politique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison pour ce qu'on ne te permettra pas de dire que ça ne s'est pas bien fait. Donc, maintenant, si tu dis qu'on ne peut pas le faire, ou si tu veux les détruire ou ramasser, c'est une question politique. C'est parce que tu n'es pas d'accord avec ça que se passe là. Et comme ça, tu mets la discussion dans un autre niveau.
Il y a aussi une dynamique de la fête.
Oui.
Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cela? Pourquoi la fête? Qu'est-ce que la fête vient faire dans ces projets d'aménagement avec les habitants?
Oui, parce qu'en fait, à la fin, je pense que c'est... Premièrement, parce que nous sommes nés pour... les collectifs Bassorama, nous avons rejoindre pour fêter, pour... comment dire? Pour divertir-se. Pour faire la fête, en fait. C'est pour ça que nous sommes rejoindre. Donc, et en plus, c'est un outil très subtil. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui... Il y a plein de gens qui sont déjà en train de demander des choses, de pointer, de faire la critique. Et nous, nous sentons vraiment bien dans la fête.
Et votre manière de faire la fête, c'est la même manière de tout le monde de faire la fête?
Je ne sais pas. Là, je sais que j'ai trouvé que l'affection, et quand tu te sens bien à l'aise dans un endroit, dans une situation, et tu es plus capable de la comprendre, de te faire à toi-même des questions que quand tu te sens responsable. Donc parfois la responsabilité vient d'un moment où tu as eu, où tu as senti la bonheur, la félicité, la bonheur. Ouais. Et donc si on est capable de construire des situations où tout le monde se sent bien, c'est plus possible que cette personne se sente plus proche à une manière différente de faire ou de regarder. Et là, c'est le changement. Parce qu'avec les dates, par exemple, tu vois en Espagne, maintenant, nous avons un parti qui est corrupt. Il a tous les data, il a dans tous les mass médias, il a partout. Et tu continues à voter ces partis-là. Ce n'est pas une question de rationnel, c'est une question émotionnelle. Donc, comment est-ce qu'on travaille avec l'émotionnel? Pour nous, la façon plus facile de travailler avec l'émotionnel, c'est la fête.
Parce que quand on regarde les photos de Otto Barrios, on se dit wow, « Waouh, cet espace, il a l'air vraiment cool, vraiment super, il est coloré. » Et puis en plus, maintenant, il y a des concerts et pas des moindres. C'est avec des artistes voilà, de renommée qui viennent. On a le sentiment que ça devient la place, une des places, non plus uniquement du quartier, mais de la ville, quoi, que ça devient un lieu culturel aussi. Nécessairement, c'est forcément finalement de... est-ce qu'il n'y a pas là le risque finalement que ça devienne un lieu aussi à risque de gentrification, un lieu d'industrie culturelle, un lieu, disons, pour des pratiques de la colocation, un lieu pour une certaine forme de vie, voilà, plutôt blanc, classe moyenne, et ainsi de suite. Bon, voilà, est-ce qu'il n'y a pas là finalement un export de vos propres usages, de votre propre manière de voir le monde, de votre propre manière de l'habiter?
Je pense qu'il y a des trucs là. C'est, premièrement, c'est que c'est la fête, c'est le résultat d'un boulot très fort. Et normalement, ce type de boulot, comme disait Diro, il n'est pas trop payé. Donc, la fête, c'est une façon d'être payé aussi. Donc, et après, la gentrification, c'est une question que c'est vraiment partout. C'est-à-dire que même ici, maintenant, si on fait ça ici dans la place, on est peut-être on peut commencer à faire on peut commencer un processus de gentrification. Et la différence à Otto Barrios, c'est l'endroit. Et l'endroit, c'est impossible de gentrifier. Malheureusement pour des voisins qui ont dit oh, j'aimerais bien que vous restez là, etc. Mais à ce moment-là, c'est impossible. Donc c'est pas des problématiques que nous avons là, mais par contre, je pense qu'avec la pratique que nous faisons, tous nous, et on forme partie, je pense, d'un changement des endroits qui, normalement, c'est les débuts ou c'est après les débuts d'un processus de changement des populations.
Diego.
Bueno, la gentrification...
La gentrification,
c'est un concept
vraiment très compliqué.
pero que cada vez están más presentes.
Mais c'est vrai que c'est toujours de plus en plus présent dans la
ville. Yo voy a contar un caso, por ejemplo, en Malasaña, en el centro de la ciudad.
Je vais raconter un cas à Madrid, dans le quartier de Malasaña, dans le centre.
Por ejemplo, era un antiguo centro social, el Patio Maravillas.
Donc, il y avait un ancien espace centre social qui s'appelle le Patio Maravillas.
Está justo en un barrio donde la gentrificación está
actuando fuertemente. Il est en train de pousser vraiment très fort.
La gentrification est capable d'assumer ou d'absorber tout. O sea, son como el
la gentrification, c'est vraiment capable d'absorber tout. Quoi.
Assume les codes, assume les esthétiques.
Utilise les codes, les esthétiques de n'importe quelle démarche.
El Patio Maravillas, creo que ha hecho un ejercicio muy interesante.
El Patio Maravillas, donc ce centre social, a fait un exercice vraiment très intéressant.
Han asumido que pueden ser parte de la gentrificación.
Ils ont assumé qu'ils peuvent faire partie de la gentrification.
Pero han tomado conciencia, o sea, que es el punto clave para revelarse.
Mais ils ont pris conscience de ça et ça c'est le point fort pour se révéler à cette situation.
Y eso es lo que ha generado una cierta resistencia.
Et son avec ça, ils ont géré une résistance.
Son parte de la gentrificación, pero son la resistencia de la gentrificación.
C'est incroyable parce qu'ils sont, ils font partie de la gentrification, mais avec ça, ils génèrent la résistance.
Parce qu'ils ont une conscience, effectivement, qu'occuper un lieu, c'est forcément le modifier, et donc c'est forcément avoir conscience de ses gestes, et du coup des gestes des autres. C'est-à-dire, c'est effectivement, comme dit Juan, on est là, donc forcément, il y a des effets, il y a des transformations. C'est une pensée de l'occupation, ça.
Sí, claro, lógicamente, cuando te instalas en un lugar,
une fois que tu t'installes dans un lieu,
sabes que vas a incidir en ese espacio para
tu
bien
sais déjà que tu vas faire un effet dans l'espace et dans le quartier, dans les sens positifs et négatifs.
Tienes que básicamente tienes que asumir cuál es tu papel, o sea, dentro un poco de esas
c'est important
lógicas,
de asumir et comprendre quel est vraiment ton rôle dans cette démarche du quartier.
Por ejemplo, el Patio Maravillas ocupa un espacio, o sea, un edificio.
Par exemple, dans ce cas-là, le Patio Maravillas a occupé un bâtiment entier.
Eso hace que el mercado lo revalorice porque piensa que es
et
cool.
Donc avec ça, en fait, ce qui se passe, c'est que les marchés revalorisent tout ça parce qu'il y a un nouvel dynamisme.
Y tienes que ser consciente de que puede haber un ataque frente a eso. Puede haber que de repente el mercado...
Et donc en fait, il faut être conscient que toi, tu es capable de créer une attaque directe face à ça.
El mercado entienda que algo que no interesaba porque era un edificio vacío, abandonado, de repente... puede ser un hôtel de lujo.
Et donc, les marchés comprennent que quelque chose qui était complètement oublié et sans valeur, du coup, ça peut être imaginé comme un hôtel de luxe.
Pero el Patio Maravillas ha tenido como un... Bueno, ha tenido tanta fuerza que ha generado
dans
como
ce cas-là, le Patio Maravillas a eu tellement de force qu'il a généré en fait un réseau d'agents, donc des parties prenantes locales.
Una red de agentes, una red de afectos que permite combatir precisamente eso.
Et en fait, c'est important parce que c'était un réseau de personnes, mais avec une importance de l'affectivité qui est plus fort de n'importe quel processus de gentrification.
Juan, vous seriez en France avec le collectif Bassourama. Peut-être que vous pourriez profiter de certaines démarches aujourd'hui qui sont en cours du côté des institutions ou des promoteurs immobiliers de dire « Bon, ben voilà, il y a des immeubles qui sont vides. Et puis, le temps qu'on réfléchisse à ce qu'on va en faire, on voudrait qu'il soit occupé, c'est-à-dire s'il est vide, il n'est pas utile. Donc, on voudrait qu'il soit occupé parce que du coup... peut-être qu'en l'occupant, cela va faire en sorte qu'il soit entretenu, que ça permette de valoriser, de découvrir des potentialités de cet immeuble. Et puis, ça nous laisse le temps, nous, de réfléchir tranquillement à notre projet. Vous pourriez sans doute vous inscrire dans plein de démarches comme celle-ci. Je pense par exemple à une opération qui s'appelle Les Grands Voisins à Paris. C'est un grand site, l'ancien hôpital, où le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on va en faire, différents collectifs, dont par exemple Yes We Camp, ont investi ces lieux pour en faire des lieux de préfiguration, mais déconnectés finalement du projet qui viendra après. Est-ce que ça, c'est des dynamiques dans lesquelles vous rentriez avec Bassourama ?
Je pense que finalement, les espaces et les changements des bâtiments, des espaces publics et tout ça, c'est qu'un outil pour renforcer la communauté. Donc, s'ils sont utiles pour renforcer la communauté, tu peux rentrer dans n'importe quel cadre de processus. Mais par contre, il faut toujours faire attention à ne perdre pas les buts. Parce qu'il y a un moment où tu penses que les buts, c'était de les faire très bien et de les faire très jolis pour que tout le monde soit fier d'être là. Mais par contre, si tu pars à la communauté, quand on travaille avec les espaces, on travaille avec les objets, pas souvent, c'est les déchets, les espaces abandonnés et la population qui est comment dire, pas fragile, mais invisibilisée. Donc, je me souvenais avant quand Diego était en train de parler de Pate de Maravillas, de la friche.
Oui.
Mais je me souvenais de la friche tout de suite. C'est quoi les points? Les points, c'est l'espace, ou les points, c'est la communauté, ou les points, c'est d'échanger la culture autour de cette situation. Donc, ça sert à quoi? Peut-être, c'est pas les problèmes de perdre l'espace, dans l'autre manière, on a réussi à activer la population pour se rejoindre contre ce type de mouvement.
Parce que ma question, c'était aussi quelle responsabilité vous tissez, quelle est votre responsabilité dans le devenir de ces lieux que vous inventez et notamment de votre responsabilité avec les habitants. Si on est dans une situation où on construit quelque chose avec des habitants, et puis après, vous vous retirez. Et puis ensuite, boum, le bulldozer arrive. Ah, c'était cool, c'était très bien, c'était joli, génial. OK, il y a eu de la communauté, il y a eu un moment existentiel, il y a eu une commune, il y a eu un communisme là, superbe. Bon, maintenant, voilà, très bien, ça a eu lieu, merci, au revoir. Comment vous continuez? C'est-à-dire, à ce qu'à un moment donné, quoi, vous allez habiter quelle est votre responsabilité vis-à-vis de justement des liens que vous fabriquez, des formes de vie que vous fabriquez? Est-ce qu'à un moment donné, ça aussi, c'est des questions que vous vous posez, Victor, par exemple, sur la plaine, le fait d'intervenir, comment vous anticipez cette responsabilité-là que vous avez d'activer des formes de vie, quoi?
Bah, sur la plaine, c'est particulier parce que c'est un lieu qu'on habite d'une certaine manière. Du coup, on a agi dessus parce qu'on fait partie de ces habitués et de ces habitants. Du coup, on est forcément, moi je me sens lié à cet endroit, cette dynamique, au-delà de la construction de cette table.
Diego?
Bueno, depende un poco de los casos.
Ça dépend de cas en fait.
Nosotros siempre trabajamos desde un rôle de médiation.
Nous travaillons toujours avec un rôle en fait de médiation.
Y de coproducción.
Y coproducción.
Lógicamente, en algunos procesos podemos estar.
Logiquement, dans des procès, on est plus présent.
Desde el principio y tener un cierto seguimiento.
Et après avoir un suivi.
A lo largo del tiempo. Hay en otros casos que es imposible.
Dans d'autres cas, c'est complètement impossible.
Por nuestra, no nos podemos dividir más. O sea, tenemos muchos procesos abiertos.
Pour notre propre situation vitale, on a beaucoup de procès, on peut pas être partout.
Pero la lógica dentro de un poco de estos trabajos
es la que, logique dans ce type de travail,
es que tú participes no solo en momentos puntuales,
c'est que tu participes pas seulement dans des moments spécifiques, ça, mais que tu essaies d'être de plus en plus présent dans différents moments aussi dans le développement.
Es cierto que hay veces que asumes el rol de detonante del proceso.
C'est vrai que des fois on assume vraiment directement un rôle de catalyseur, donc de commencer le processus.
Pero sería un error ser solo o pensar solo en
mais
en
ça serait un erreur si on pense seulement à avoir cette rôle là de détonateur.
Si tú cuando arrancas un proceso no sabes que no hay gente detrás para darle continuidad.
Quand tu commences un processus et tu n'as pas la conscience de savoir qu'il y a d'autres gens qui peuvent prendre les relais.
Es mejor que no empieces el proceso.
C'est mieux que tu ne commences pas du tout le procès.
Juan, à San Cristobal, finalement, la population, elle ne vous a rien demandé. C'est vous qui êtes venu, qui a dit, bon, bah, tiens, et si on faisait cela? Donc, si on le faisait cela, combien de temps on le fait ensemble pour la vie? On y habite voilà, elle ne vous a rien demandé, cette population.
Oui, c'est vrai, ils n'ont rien demandé. Donc, au début, nous avons aidé dans les processus qu'ils avaient déjà. Donc, le but, c'était de comment on peut coordonner les processus que vous avez déjà, avec des idées que nous avons notre regard. En même temps, ça s'appelle autobarrio, c'est-à-dire on cherche des gens qui sont autonomes. Donc, quand tu commences des processus comme ça, tu dois avoir aussi, tu dois faire attention pour ne créer pas une dépendance qui n'existait pas avant, c'est-à-dire la dépendance de toi-même. Moi, je suis si important que je ne peux pas me partir parce que sinon, ça va devenir la folie. Donc, et tu dois aussi prendre conscience que tu dois laisser tu dois toujours avoir dans la tête que toi, tu n'es pas important. Que toi, tu as un rôle là et que tu dois aider les gens à apprendre, comment dire, déléguer tous les trucs que tu es en train de faire. Et parfois, par l'ego, par ton même existence, c'est très difficile de déléguer et de te rendre compte que tu n'es plus important quand peut-être tu étais les débuts. Non? Donc, je pense que prendre conscience de ça, c'est très, très, très important. Parfois plus qu'accompagner tout le process.
On était avec Diego, Juan et Victor, respectivement le collectif Basurama, qui est un collectif donc d'architectes, mais pas que, à Madrid. Tolo pour la Praxis, un collectif aussi à Madrid, et donc Victor, qui était là pour le collectif ETC, ou etc. Ensemble, on a parlé voilà, de ces différentes manières de faire et des questions qu'elle soulève. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ici, il y a une pensée, finalement, de l'architecture qui ne se limite pas, effectivement, à l'objet, mais qui prend en charge le fait même d'habiter avec une pensée que, finalement, c'est presque toute la vie qui semble pris en charge. Et donc, peut-être qu'il nous faudra commencer à circonscrire, quand même, un petit peu tout cela, de savoir, quand même, où ça commence et où ça s'arrête. Parce que si habiter, c'est vivre... Bon, oui, alors tout le monde, effectivement, vit, mais du coup, on ne vit pas dans 50 endroits en même temps. Donc là, c'est toutes les difficultés. On va se retrouver dans à peu près une demi-heure pour un deuxième plateau, pour essayer aussi de réfléchir à l'idée de, sans doute, une fédération, ou en tout cas de comprendre la cartographie. Il y a différents collectifs en Espagne, il y a différents collectifs en France, l'hétérogénéité des collectifs. Bon, quel est le commun un petit peu de tout cela? Diego disait, il faut mettre en place tout de même un protocole ou des processus clairs pour savoir de quoi on parle, parce que il y a ce langage des institutions qui est en train de se réapproprier des pratiques. Est-ce que quand les institutions disent concertation ou participation, il y a vraiment de la participation, et ainsi de suite. Donc voilà. Est-ce qu'il s'agit simplement de dire nous sommes un collectif et nous sommes tous des collectifs et on se fédère parce que nous sommes des collectifs, ou est-ce qu'il s'agit penser au niveau des situations et donc de cas précis de situation? Est-ce que c'est des situations qu'il faut fédérer, ou est-ce que c'est des collectifs qu'il faut fédérer? Ce sera l'objet de notre deuxième discussion dans à peu près 20 minutes. Merci à vous. On se retrouve donc dans 20 minutes en direct de la Belle de Mai sur les ondes du 88.8 à l'occasion de ce rassemblement Hyperville. Merci beaucoup et merci Diego et Alfonso pour la traduction.
Retrouvez tous nos programmes sur radiogrenouille.com.